France Culture.
Bonsoir Pierre Richard.
Bonsoir.
Épisode 2, t'es pas comédien, t'es un personnage, fais ton cinéma toi-même. Alors, on a quitté Valenciennes, on a quitté vos débuts au TNP, on vous a laissé dans les coulisses de Bobino et on vous retrouve à table avec toute la bande de la Coupole. La table était à quel endroit dans cette grande brasserie Montparnasse qui est la Coupole?
Si vous mettez au milieu, puis elle était un petit peu sur la droite.
Comment ça se passe, les chaînes? Cette sainte scène avec des intellectuels de vos amis.
Mais tout le monde parlait de ce qu'ils écrivaient, de tout le monde. Topor faisait beaucoup rire et riait beaucoup. Je me souviens plus très bien de ces conversations. Je me souviens qu'elles étaient animées, elles étaient passionnées, drôles. Mais vous dire maintenant avec précision tout ce qui s'y passait, tout ce que je savais, c'est qu'ils se retrouvaient tout le temps, mais finalement moi aussi. J'avais ma à l'époque, je crois que j'avais une Vespa. Et parce que je n'habitais pas dans ce quartier, et je l'ai retrouvé là. Et un beau jour, Yves Robert me dit, pendant que je tournais avec lui Alexandre Bienheureux, il me dit un jour, on marchait chacun sur un rail. Parce que Yves Robert, j'avais joué avec lui au théâtre. Puis après, j'avais perdu de vue, parce qu'il était déjà... moi, je n'étais pas encore connu. La preuve, c'est qu'à la sortie du théâtre, il y avait, je ne sais pas... plein de Claude Sauté qui venait de l'attendre, déjà des grands du cinéma. Et puis moi, je les connaissais pas. J'allais tout de suite voir mes copains, parce que j'étais au théâtre un petit théâtre à Montparnasse. Hop, j'allais retrouver mes copains là-bas. Et donc, bref, Yves Robert me dit, nous marchions sur un rail chacun pour voir celui qui tiendrait le plus longtemps sans tomber. Et me dit, je vais dire une chose, tu n'auras jamais aucun rôle dans le cinéma. Tu n'es pas un jeune premier, ça recommence. Comme disait mon père, Jean-Pierre Cassel ou Jean-Claude Brialy, t'es pas un jeune premier, t'es pas une rondeur comme Blier. En fait, d'ailleurs, t'es pas un comédien, il m'a dit, t'es un personnage. Alors, sur le coup, j'ai les bras qui sont tombés quand même, je suis tombé de mon rail, mais il me dit, fais ton cinéma toi-même. C'est pour ça que je vous ai dit que deux personnes ont compté, évidemment, normal. C'est Daniqué qui m'a dit, fais ça, si je puis dire, et Yves Robert qui m'a dit, t'es pas un comédien, fais ton cinéma toi-même. Quand il m'a dit ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je me suis précipité dès que j'ai pu à la Coupole et j'ai dit à tout le monde ce que Yves Robert m'avait dit. Et Roëlan, qui écrivait des livres de science-fiction, mais qui était médecin rue Quincampoix, je me souviens plus bien.
Oui, il était médecin là où est le centre Pompidou aujourd'hui.
Voilà. Devant la porte de son immeuble, il y avait toujours 7 ou 8 péripatéticiennes qui faisaient le trottoir.
Qui étaient aussi ses patientes.
Oui, entre autres. J'espère qu'il n'avait pas qu'elle. Et moi d'ailleurs, alors, je reviens en arrière quand même parce que je ne suis pas encore. Et donc, je dis ça et Roëlan me dit, va chez Gilbert Jeune, achète les caractères de la Bruyère. Et le lendemain, j'achète les caractères de la Bruyère et je tombe sur les 6 ou 7 pages, même pas, le distrait. Il m'a dit, c'est pour toi. C'est lui qui m'a soufflé ça. Et d'ailleurs, je vais dire, oui, c'est formidable. Ça n'a aucun rapport avec ce que j'écris après, puisque j'écris sur la publicité, tout ça, ça n'a aucun rapport avec le... C'est simplement que j'ai emprunté le distrait. J'ai emprunté ce trait de caractère. Et nous avons écrit ensemble le distrait. Et un beau jour, mais un an après, si c'est pas plus, j'ai été voir Yves Robert, que je ne revoyais pas, finalement, dans son bureau, auprès des Champs-Élysées. Je lui dis, Yves, tu te souviens de ce que tu m'as dit? Oui. Tiens, voilà. Et je lui donne le distrait. Et il le lit et me dit, ouais. Après, il m'a donné quelques conseils, mais il m'a dit, ouais, ouais. Il m'a dit, on va le faire. Si Poiré dit oui, la Gaumont.
Donc Alain Poiré, c'était le directeur des productions de Gaumont International, qui a produit toutes les grandes comédies.
Les grandes comédies de l'époque.
De la Gaumont pendant un demi-siècle. Alors, ce que j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière, justement. Il y a un film qui s'appelle « Salut l'artiste ».
Oui.
D'Yves Robert, avec Pastroianni et Rochefort, qui raconte justement ces aventures d'acteurs qui faisaient 3 cabarets dans la soirée et qui faisaient la fête. Vous avez vécu ça, cette vie-là, la vie de ces comédiens qui allaient d'un cabaret à l'autre
ou c'est ce que j'ai fait, moi.
C'est ça.
C'est ce que j'ai fait à l'Écluse, c'est ce que j'ai fait à la Galerie 55, c'est ce que j'ai fait même dans d'autres... le Cheval d'Or, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. pour gagner sa vie. Je vous dis, on avait une petite enveloppe et je la... Il n'y avait que le lundi qui était dur parce que... Non, le mardi était dur parce que le lundi, c'était fermé. On n'avait pas l'enveloppe du lundi, donc mardi, on mangeait moins. Monsieur, on a partagé... Avec Barbara, on a partagé derrière la petite boîte, l'écluse, on a partagé un repas pour deux, enfin une assiette pour deux, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour s'en payer une chacun. Bon, j'ai connu donc ça, comme Yves Robert le raconte dans son film avec Rochefort.
Et alors, quand vous faites le film Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert...
Il m'a dit, je t'ai écrit un rôle pour toi. Comme quoi, il justifiait ses propos, tu es un personnage. Il a écrit un rôle où justement, je pouvais mettre ma gestuelle personnelle, enfin bref.
Mais ce n'était pas votre premier film.
Non. C'est curieux, parce que je l'ai oublié, celui-là, il faut dire que tout le monde l'a oublié. La Coqueluche. Très curieux. Je passais justement à la galerie, un metteur en scène qui s'appelait Arrigui est venu me voir à la sortie, je veux faire un film avec vous. C'est Mac Baudard qui le produit.
Mac Baudard qui a produit Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort de Demy et Le Bonheur de Varda.
Et curieusement, ce film a été fait avec un inconnu comme moi. Et il y avait des rôles secondaires, c'était Galabru, on appelle secondaire. Ouais. Et puis surtout, il y avait, c'est ça qui est extraordinaire, il y avait dans le film le rôle de ma petite copine. Or, ce film, il n'a été pas produit par Mac Baudard, il a été produit par un riche Allemand dont il était dont elle était la maîtresse. Et donc, en fait, il a donné l'argent à Mac Baudard pour faire le film parce qu'il y avait la petite amie qui jouait dedans. Sauf que ce couillon d'Arrigui, il a couché avec elle. Le producteur était fou de rage, il a dit « je m'en fous, le film ne sortira pas ».
Et le film est à peu près invisible, d'ailleurs.
Invisible.
Et alors, le deuxième film, là, vous avez un tout petit rôle. Mm-hmm. C'est un film de Serge Corbère, que vous allez retrouver plus tard. Rien. De 1967, Un idiot à Paris, où vous allez retrouver un certain nombre de copains. Il y a une scène, vous êtes flic.
Oui.
Et vous êtes devant la cage, où sont Dany Carrel et Jean Lefebvre. Et vous filez une grande baffe, vous qui avez beaucoup reçu de baffes au cinéma, vous filez une grande baffe sur la cage, et voilà, c'est ça la scène.
À midi, j'étais libre. Oui, c'est pour ça que je ne m'en souviens pas beaucoup.
Et alors, quand vous faites Alexandre le Bienheureux, on est à la campagne, et vous rencontrez ce personnage incroyable qui est Jean Carmé. Comment ça se passe, les virées avec Jean Carmé?
Je peux écrire un livre sur Carmé. Parce qu'après, on ne s'est plus quitté. Carmé, à ce moment-là, il jouait une pièce de théâtre. Moi, je faisais mon cabaret. On prenait le même train, le dernier train de la gare Montparnasse pour Chartres. À Chartres, on dormait dans un hôtel. Et le matin, un taxi nous emmenait sur le tournage dans la Brie. Un petit village. Je ne me souviens plus du nom. C'est comme ça que j'ai... Et donc, tous les soirs, je me retrouvais avec Carmé dans le train. Alors, ça a commencé très fort avec lui. Lui, il prenait des premières. Et moi, je prenais des secondes. Mais après, une fois que j'avais mon ticket, je montais avec lui dans le wagon de première. Donc, tous les soirs, on était dans ce wagon de première jusqu'à Chartres. Et puis, voilà, pour la première... Alors, déjà, il n'y avait quasiment personne. Le dernier train était vers 1h du matin. Il n'y avait pratiquement pas de voyageurs. Donc, dans la première, déjà, un soir, on avait retiré nos pantalons. Tous les deux pour le mettre sous le siège, pour les plis, parce qu'on
avait pour les repasser.
De toute façon, pour une raison ou pour une autre, il retirait toujours son pantalon. Et moi, je suivais comme un andouille. Et voilà que, arrivé à le train s'arrête à Rambouillet. Et pour la première fois, voilà que rentre un contrôleur. Et moi, tout de suite, j'ai dit, j'étais avec mon billet de seconde, je lui ai dit dans la poche, puis j'ai dit, je fais comme si je l'ai perdu, quoi. Et voilà, le contrôleur, il est arrivé, mais votre ticket, lui, il a donné, puis il a dit, excusez-moi, alors là, c'est un grand phraseur, hein, Carmé, excusez-nous de cette tenue dans laquelle nous vous recevons dans ce wagon. Vous savez, s'il y a vraiment une chose pour laquelle j'ai la plus grande considération, c'est pour les gens de la SNCF, ils se lancent dans un grand monologue sur leur courage, leur témérité et tout. Et puis là-dessus, évidemment, après, il se penche sur moi et dit, mais vous, monsieur, le ticket? Et moi, je commence à faire, mais je sais pas. Et il dit, monsieur le contrôleur, il dit, il est dans sa poche. Et il sort mon ticket de seconde. Et j'ai donc payé. Voilà. Ça, c'était Carmé. Alors maintenant, Ça se fait plus dans le cinéma maintenant. Maintenant, on est là. Les producteurs sont à compter les jours que vous faites. Hein. Si vous avez 13 jours, c'est pas 14. Hein. Parce qu'il faudrait payer le 14e. Mais à l'époque, Yves Robert, il a, finalement, moi j'avais quoi? Comme Jean, on avait 10 jours de tournage. Sauf qu'il nous voulait tout le temps parce qu'au cas où, dans sa tête, il veut tourner un truc, il peut. Ça se fait plus jamais. Donc nous, la plupart du temps, on errait dans le village. On allait voir tous les paysans du village, on se buvait des petits coups et tout ça, on connaissait le... Alors Jean, évidemment, parlait à tous ces gens du village, les faisait parler parce qu'il fait beaucoup parler et ça prenait des proportions énormes.
Jean Carmet, à l'époque, il était connu pour une publicité pour le concentré de tomates, non?
Oui, ça veut dire que quand on arrivait, des fois on arrivait en Rolls, la Rolls de Philippe Noiret. Philippe Noiret, déjà, il avait déjà sa Rolls. Ça a été toujours un grand monsieur, hein. J'ai adoré Philippe. Et donc, nous, un jour, on arrivait dans le village avec la Rolls. Moi, j'étais derrière, Carmet devant, et quand on arrivait sur la place du village, tous les villageois se massaient autour de la Rolls-Royce. Et en fait, Noir était un peu vexé parce qu'il se rendait compte que c'est pas pour lui que les gens se massaient autour de la voiture, c'était pour la voiture. Sinon, Noiret était un grand comédien du TNP, mais pas encore du tout du cinéma. C'est d'ailleurs ce film qu'il a lancé.
On est en 68, hein, on est en 1968.
Ah, c'est ça. Ah. Et donc, lui, il était vexé parce que tout le monde, personne ne le reconnaissait. Évidemment, il avait un. Hein. Et l'autre, il était vexé parce qu'on ne disait pas « Ah, c'est Jean Carmet », il disait « Oh, ce serait meilleur avec du concentré de tomate ». Tous les deux étaient vexés pour des raisons différentes, mais... Et moi, derrière, j'étais tranquille, je me foutais la paix. Et déjà, il avait sa Rolls, et déjà, il fumait des gros cigares, et nous, on fumait des Mecarios, et il disait, je fume des gros cigares parce que j'ai un plus gros cachet que vous. Mais c'était de l'humour, évidemment. C'est un type adorable. Philippe Noiret, faudrait pas voir ça comme une espèce de dédain à notre égard. Et d'ailleurs, quand j'ai tourné 10 ans plus tard avec lui, avec le film de Marco Pico, le premier jour, je me suis acheté un énorme cigare et j'ai dit à Noiret, sur le plateau, j'ai dit, excuse-moi Philippe, mais je filme mon cigare est plus gros que le tien parce que j'ai un plus gros cachet.
Alors le film, c'est Un nuage entre les dents.
Ouais, j'adore ce film en
plus. Et qui est un film extraordinaire.
Ah, Marco est devenu plus qu'un ami, un frère.
Un nuage entre les dents, c'est un film très singulier parce que ça se passe exactement dans le quartier où habitait votre ami André Ruellan. Mmh. Puisque c'est sur le chantier du centre Pompidou où il y a des accidents du travail absolument sanglants et terrifiants. Et c'est un film où vous êtes photographe. Hein, vous avez une 403 comme celle de Colombo un peu.
Mmh, avec une portière qui claque. Hein,
avec les portières qui ne se ferment pas. Et Noiret est journaliste de ce qui... Un journal qui ressemble à François.
Moi, j'étais photographe, il était le journaliste.
C'est ça.
Il écrivait les papiers et moi
et vous avez avec le cigare au bec et vous faites des photos, vous avez une famille.
On braillait, on se hurlait, on est picolé dans les cafés, tout ça. Et d'ailleurs, Yves Robert n'était pas pour que je fasse le film parce que je sortais du Grand Blond, les cheveux blonds, les yeux bleus, charmant, adorable, poétique. Et là, tout à coup, je braillais, et il était contre. Mais comme à ce moment-là, j'étais plus fort que j'irais voir ailleurs. Puis je l'aurais fait parce que j'avais
Vous étiez bankable.
Ouais, voilà.
Alors, bankable. Allez,
j'étais bankable et personne n'aurait osé me dire non. Ouais. Donc Yves a dit oui, mais la mort dans l'âme quand même. Enfin, il est pas très. D'ailleurs, ils l'ont mal sorti.
Je t'assure, pas possible, des gosses comme ça. Ils vont recevoir une de ces volées. Bordel de Dieu. Non, faut pas me prendre pour un.
Et en plus, je suis sûr qu'ils connaissent pas leur nouvelle adresse.
Mais s'ils la connaissent très bien.
Bon, tu vas te calmer un peu.
Ça va, je suis parfaitement calme. Hein.
T'as réfléchi un peu au lieu de te monter la tête.
Qui se monte la tête? Alors ça, j'aimerais bien savoir. J'engueule mes mômes, c'est tout.
Eh ben, engueule tes mômes tant que tu veux, mais me casse pas les pieds.
Parce que pourquoi si mes mômes sont perdus, ça te casse les pieds.
Oui, ça me casse les pieds. Mais t'agites pas comme un névropathe.
Névropathe, non mais t'es fou.
Non, je suis pas fou. J'essaie simplement de ne pas dramatiser, de circonscrire le problème, de le survoler.
Si on reste dans l'ambiance Alexandre le Bienheureux, à partir de là, vous avez votre projet de distrait. Comment ça se monte, le distrait? Parce que comment vivez-vous à l'époque? Parce que vous êtes un jeune marié, vous avez déjà deux enfants.
Vous en savez plus que moi, là.
Ben oui.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, tiens.
Ben oui. Vous êtes marié, vous avez deux enfants, vous avez une femme qui est une danseuse.
À l'opéra.
À l'opéra. C'est un peu elle qui fait bouillir la marmite ?
À l'époque, oui, hein. Oui. Elle gagnait plus d'argent que moi. Quoique, je sais pas, parce qu'on est danseuse à l'opéra, sauf si on est danseuse étoile, on ne gagne pas tellement d'argent non plus, mais enfin, en tout cas, elle en gagnait plus que moi.
Et on peut dire son nom, hein, parce qu'elle s'appelle Danielle Minazzoni. On prononce correctement ?
Oui.
Hein. Et vous avez avec elle deux enfants, qui sont Olivier et Christophe. Mmh. Christophe et Olivier, qui sont devenus musiciens et qui, eux, portent votre vrai nom.
Mmh. Hein. Oui, oui.
Quand vous faites le distrait, vous l'écrivez avec qui ?
Ruelland.
André Ruelland.
Puisque c'est lui qui m'a soufflé l'idée de choisir ce thème. Et nous l'avons écrit ensemble. Il avait au fond le même humour, celui que j'aimais tant aussi à l'époque, l'humour noir, l'humour... on l'a écrit, c'est pour ça que justement, quand au bout d'un an et demi, j'ai été voir Yves Robert, il a dit je le fais, je le... Bon, il m'avait dit, va voir t'as rendez-vous demain avec Poiré. Mais surtout, alors mets-toi une cravate et lave-toi les mains. Hein, parce que c'est un grand monsieur, il faut pas... à l'époque, alors donc, je m'étais mis une cravate et tout ça. Et Poiré a dit, mais qu'est-ce que vous avez ? Je dis jamais rien, c'est pour ça que vous pouvez tout attendre de moi. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait tellement de panneaux, j'étais de cinéma, j'ai rien fait. Et bref, il a dû dire à Yves Robert, je suis d'accord, et on a fait le film. Quand j'ai su ça, pour en revenir à la coupole, dès qu'il m'a dit on le fait, la première chose que j'ai fait, c'est de prendre ma moto et de filer le soir à la coupole. Ils étaient là déjà tous, et moi j'étais debout, j'aurais dit s'il vous plaît, j'ai dit ça y est, je vais faire mon premier film. Et à ce moment-là, Topper s'est levé, il a tapé sur le verre pour faire taire tout le monde, il a dit, messieurs, l'heure est grave, le cinéma est en train de tomber entre les mains des goyes. Voilà comment j'ai commencé. Alors après, ben c'est Yves qui m'a... D'ailleurs, moi, quand il m'a dit on le fait, j'ai cru que je le jouerais. Et je lui ai dit, ben, qui va le faire ? Puis d'ailleurs, je lui ai dit, toi, Yves, fais-le. Il m'a dit, t'es fou. Je lui ai dit, mais qui ? Il m'a dit, toi. Mais je lui ai dit, mais j'ai même pas fait un court-métrage. Il dit, je m'en fous, même si c'est maladroit. Mais si tu le donnes à quelqu'un, elle enlevera ce qui est toi, c'est-à-dire la poésie, quelque chose dont tu, justement, ce qui t'échappe et qui est tellement... Donc tu vas le donner à quelqu'un, quoi, Molinaro, Lautner, ce ne sera pas. Bref, il m'a obligé à le faire, si je puis dire.
Et vous vous souvenez du premier jour de tournage ?
Oui, c'était Avenue de l'Iéna. Comme premier jour, il n'y a pas pire. À l'époque, on pouvait tourner, je crois que maintenant on ne pourrait plus. Tout ça se passait au milieu des voitures. Il y a 5-6 routes qui donnent dans l'avenue, la place. On bloquait tout le monde.
À l'époque, il y avait des policiers, d'ailleurs, au milieu de la place. Oui,
oui. Mais alors on avait par contre un comédien pour jouer le flic. Il était très bon, d'ailleurs. Quand il tendait les bras pour faire la circulation, je me jetais sur lui pour l'embrasser.
Bernard Charland, le policier que vous embrassez.
C'est pas tellement moi qui faisais rire, c'est lui, la tronche qu'il a quand il dit « Qu'est-ce que c'est que ce type qui m'embrasse parce que je fais ça ?» Et après, ça n'arrêtait plus, quoi. Mais c'était difficile, comme premier jour, c'était dur.
Le distrait, ça va être un énorme succès. C'est un film qui va faire quasiment 1,5 million d'entrées. À partir de ce moment-là, ça change complètement, parce que vous êtes acteur, réalisateur.
Ben, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand le film est sorti, à l'époque, le Concorde, il n'y avait qu'une salle. Donc, on savait bien on voyait bien s'il y avait du monde devant le cinéma ou s'il n'y en avait pas. Et le premier jour où il est sorti, j'étais totalement inconnu. Hein. C'est Yves Robert qui m'a dit, viens, on va aller voir. Il va me dire, tu vas voir, on va descendre tous les deux en bas du Concorde. Je vais appeler une ouvreuse parce qu'elles savent. Je peux dire qu'elles ne se trompent pas. Elles savent si ça marchera ou pas. Donc, nous voilà en bas. Il fait, mademoiselle, s'il vous plaît. Il dit, alors, lui dit-il à la ouvreuse, comment ça va le distrait, le film ? Elle dit, oh ben dis donc, il ne va pas rester longtemps celui-là. Hein. Moi, j'étais pétrifié, et lui, il fait, je vous présente Pierre-Richard, le metteur en scène. En plus, il me présente, moi, j'avais plus qu'une envie, c'est... Elle dit, elle m'a à peine regardé, il fait bonjour. Et ça s'est vite passé, parce qu'elle est repartie travailler. Et là, on est remonté, je me souviens, les marches tous les deux. Puis on a commencé à descendre les Champs-Élysées, tous les deux, sans se dire un mot. Sans un mot. Et là, au bout de 10 minutes, il fait, elle est con, sourdeuse. c'est vrai que ça a marché.
Et c'était une
Mais
époque...
ça a marché que le vendredi. Quand le vendredi, 2 jours après, j'ai vu la queue, c'était pas un autre. Hein.
Et c'était une époque où il y avait des cinémas sur les Champs-Élysées, une époque qui révolue depuis 2024.
Il n'y en a plus un, des films là, c'est l'horreur.
Il en reste un.
Hein, oui, mais Balzac.
Oui, le Balzac et le
Publicis. Oui, il est même pas dans les Champs-Élysées.
Oui, oui. Et le Publicis.
C'est horrible.
Moi, ce qui me frappe, Pierre Richard, c'est que tous les films que vous... Enfin, pas tous les films, mais beaucoup de vos films sont des films politiques. Des films où il y a un message assez anard, généralement. C'était conscient ou c'était inconscient ?
Ah non, c'est carrément conscient. Je pense que le burlesque doit être politique, finalement, à part quelques-uns. Chaplin, ou combien ? Peut-être pas tous, hein, mais les Marx Brothers, c'est des pétards qu'on lance dans des soirées de mondains. Ce sont des anarchistes. Peut-être pas Tati, qui est plus doux, qui est sur la poésie d'un personnage. En tout cas, moi, le mien de burlesque, c'est un moyen. Balzac disait quand il y a deux moyens, ou bien on balance une grenade ou on envoie un serpent. Moi, je me profitais de mes yeux bleus et de ma gentillesse pour me foutre de la gueule de la pub. Ça n'a pas changé grand-chose. Hein. C'est encore pire aujourd'hui. Je ne peux pas dire que j'ai eu des gros résultats. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a disposé. À l'époque, je sais pas si on pouvait plus ouvrir sa boîte aux lettres sans qu'elle soit remplie par les trucs. Maintenant, c'est encore pire, on peut plus se servir de ça sans être obligé de passer par la pub. Mais ça m'énerve parce que c'est de la pollution de la tête, c'est de la pollution sur les murs, c'est de la pollution
mentale.
Bref.
Et alors, quand vous dites ça, c'est votre téléphone, hein. Oui. C'est vrai qu'on peut pas allumer un téléphone sans avoir un message publicitaire.
Pierre Richard. Après, c'est vrai que les jeux à la con, ça m'énervait aussi.
Ça, on en parlera demain, des jeux à la con. Parce que aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que vous nous parliez d'un de vos murs préférés, qui est Monsieur Blier. Monsieur Blier père.
Mon mur préféré. J'adorais Bernard. Mais j'avais très peur au début. Il avait fait 103 films, c'était mon premier. En plus, il était sous mes ordres. C'est pas facile de dire à Bernard, coupez Bernard, c'est pas bien là, t'es pas très bon hein, là-dedans. Bon, j'étais terrorisé par lui, surtout qu'il avait la réputation de toujours être très facile. Je me souviens qu'un jour, je lui avais dit, d'ailleurs après j'étais très ami avec lui, il dit, tu sais que t'as une réputation d'être méchant, il dit, je suis pas méchant mais j'aime pas les cons. Alors comme on n'est jamais sûr de ne pas en être, au début j'étais quand même j'avais un peu la trouille. Il m'a appelé à 8h du matin parce que c'est Yves Robert qui m'a dit, ça y est, Yves m'a dit, il va t'appeler. Et le lendemain, il m'a appelé à 8h pour me dire, Richard, oui, Bernard Blier, je suis d'accord, j'aime bien. C'est l'homme de la plus grande mauvaise foi que j'ai jamais connue. Mais à ce point, ça devient poétique, ça devient, je sais pas. Un jour, il arrive, un matin, et il me dit, dis donc, ah oui, parce qu'il avait un long monologue. Il avait un long monologue dans un long couloir. Moi, j'étais à ses côtés, mais je disais rien. Et il marchait, il parlait. Et il arrive un matin, il m'a dit, dis donc, j'ai pensé cette nuit, si j'avais un dossier. Je dis, Bernard, pourquoi un dossier? Et là, tout de suite, j'ai vu, il me fait, parce que je suis président, un président de société, il a un dossier. Je dis, oui, Bernard. Et j'appelle l'assistant, je lui dis, Pierre Cosson, il s'appelait. Je lui dis, Pierre, tu donneras un dossier à Bernard. Et là-dessus, Bernard s'en va se faire maquiller, et l'assistant regarde s'il est bien parti, et il me dit, il sait pas son texte. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Il dit, parce que quand il sait pas son texte, il demande un dossier, puis il met le texte dans le dossier. Je dis, mais il est pas toujours président, et alors il dit, si le restaurant, il demande un menu, puis c'est tout. Et là, c'était vrai. Un quart d'heure après, on part dans le couloir, moteur. Bon, Figuier, vous irez chez, je sais plus, Bousquet. C'est un grand. Oui, parce que forcément, s'il marche, il sait où il regarde, mais il faut bien qu'il se penche pour regarder. Puis quand il sait plus où il en est, il cherche le texte. Et là-dessus, ça fait un blanc. Moi, il y a eu un blanc. J'ai dit couper. Il dit pourquoi t'as coupé? Mais je dis parce qu'il y a eu un blanc. Mais j'ai cru que t'avais un trou. C'est pas un trou, c'est un temps qui fait. Je dis, tu voudrais que je dise le texte comme ça, sans point, sans virgule, sans rien? Je dis non, non, Bernard. Et puis il se retourne de l'équipe, il fait « Oh, là c'est un mauvais soi qui fait, me regardons. » Ça, c'était Bernard. Il m'a fait ça, 18 prises on a fait. Après, on recommence. J'ai dit « Bon, allez, moteur, vas-y. Bon, leur Figuier, c'est Gaston, c'est un... Eh ben, coupé !» Il fait, je dis « Pourquoi t'as coupé ?» Il dit « Parce que tu vois bien que j'ai un trou. » Je dis « Excuse-moi, Bernard, mais j'ai cru que c'était un temps. » Ça fait ça 18 fois. Enfin bref, mais Bernard était un énorme comédien.
Enfin,
je m'excuse parce que j'ai fait un petit problème.
Je me suis laissé dire que vous aviez quelques projets intéressants à nous soumettre.
Oui, j'ai...
Asseyez-vous, jeune homme.
Merci.
Non, prenez une chaise.
Merci.
Bien, montrez-nous ce que vous avez trouvé.
Monsieur le directeur, le savon Pilate vous lavera les mains jusqu'à l'os.
Monsieur Malaquais, je ne suis pas convaincu de l'efficacité d'une telle démonstration.
La même année que le Distrait, vous avez rencontré De Funès aussi. Vous êtes allé sur le tournage de L'Homme Orchestre.
Ah ben parce qu'à l'époque, ma femme était danseuse.
Ben oui.
Mais ma femme, à l'époque, était danseuse dans le... il avait fait une comédie musicale, je sais plus.
C'était L'Homme Orchestre de Serge Corbert.
C'est ça. Alors, bon, ben, elle avait... Il y avait un ballet des danseuses. Et moi, oui. C'est la première fois que j'ai vu, finalement, que je l'ai vu de près. Parce que moi, à 19h, je l'attendais dans les couloirs du studio, là, Boulogne-Billancourt, qui n'existe plus. Donc, je l'attendais sagement dans les couloirs, 19h, que ma femme sorte pour le récupérer et rentrer. Et puis, tout à coup, j'étais en avance un peu. Il est sorti, la porte s'est ouverte, il est sorti. Puis, il vient vers moi, il fait que je vais être là-haut. Je dis, monsieur De Funès, j'attends ma femme qui danse dans votre ballet. Il fait, ah bon. Il dit, écoutez, je vais vous dire. Il y a plein de gens qui ont cette indélicatesse de rentrer sans frapper dans le studio. Vous avez, vous, cette élégance. Venez, je vous amène. Et il m'a conduit. C'était quand même ma premier contact avec Louis, que j'ai connu après. Et je dois dire que il a été adorable, quoi.
Alors, on va laisser Blier et De Funès. Et demain, on va...
Qu'est-ce qu'il y a demain?
Demain, il y a les Malheurs d'Alfred.
Vous parlez de demain mercredi?
Demain mercredi, absolument.
On se voit demain.
Mais oui, on se voit demain. On se voit tous les jours, tous les soirs.
Mais non, je peux pas.
On va réinventer encore vos personnages. On va parler de Francis Weber aussi, de Claude Zidi, d'un certain nombre de gens qui ont traversé votre vie et aussi votre filmographie. Donc à demain, Pierre Richard.
À demain.
C'était À voix nue avec Pierre Richard, réalisation Laurent Polleret, prise de son Romain Luquiens, chargé de programme Daphné Abgral, une série d'Alain Kruger disponible sur le site de France Culture. Thank you.